France Inter.
C'est la bande originale avec Lila Cadeau-Modelli, avec Lisa Delmoitier, Amandine Lourdes, Mélodie Fontaine, Tanguy Pastureau et deux invités, Josiane Balasco et Marie Loubéry. Ah oui.
France Inter, la bande originale, Lila Cadour et Nagui.
Bonjour Josiane, bonjour Marie-Lou.
Bonjour.
Comment allez-vous? Pas trop fatigué parce que le rythme du théâtre a commencé, ça va?
Lundi, okay. On s'est reposé, donc ça va.
Parfait. Elle vient à peine de commencer sur scène et on a eu la chance de la voir, cette pièce. Ça, c'est de l'amour, signée de Jean-Robert Charrier, mise en scène par Julianne Roth. On va en parler de cette pièce qui a plusieurs prismes, plusieurs facettes, et c'est ça d'ailleurs qui fait son originalité. Mais le point de départ de la pièce, c'est une maman qui arrive le soir de Noël par surprise. Et pourquoi elle débarque par surprise? Parce que l'autre enfant.
Elle s'est fâchée avec.
Ah ouais, un des problèmes de alimentaire.
Ah oui.
Et voilà, c'est ça le problème. Donc, est-ce que, petit tour de table, avez-vous des... Alors, c'est pas vraiment des allergies...
Intolérances.
Imaginaires, que je considère, moi, la mère, comme imaginaire.
Ouais. Évidemment. Avez-vous des intolérances alimentaires qui peuvent déclencher peut-être les problèmes pour les gens qui vous invitent en disant « Ah non, mais moi, je veux bien, mais je mange pas ça. » Lisa Delmoitier.
Ouais, j'ai appris ça il y a un mois, parce que j'ai fait une grosse réaction allergique. Et je suis allergique au lactose, au soja, au blanc d'œuf, et à genre toutes les noix. Et je ne savais pas avant.
Ouch. Tu te rendais compte que ça ne passait pas quand même?
Ben, j'avais des problèmes digestifs.
Ok, d'accord.
Mais ce n'est pas une intolérance, là, c'est une vraie allergie.
Ouais, je ne sais pas, mon corps a décidé de m'envoyer.
Le lactose fait d'ailleurs partie, je crois, des intolérances évoquées dans la pièce. Amandine?
Ah non, moi je digère tout. Moi, je suis un microbiote incroyable.
Ok, Mélodie?
Bah non plus. Écoute, je trouve ça horrible quand on découvre ça, par exemple, quand t'aimes le fromage et qu'on te dit ah bah non, en fait, t'es allergique. Ah, mais t'as une intolérance.
Après, tu peux le constater sans même que le découvrir. Il se trouve que chaque fois que tu bouffes un truc, ça passe pas, quoi.
Ouais, parfois ça peut être diffus, les symptômes. Est-ce que ça vient pas directement après?
Fais-moi manger de l'oignon, tu verras que c'est pas diffus. Hein. ça passe pas, ça
ton
passe
haleine,
pas.
Ton haleine, pardon.
Non, mais tout.
Ah ouais? Oui. Mais genre.
Merci.
Non, mais par exemple, si les concombres, alors.
Ça passe pas.
Bah ça revient quoi.
Non mais il y a des personnes qui ont des problèmes. Par exemple avec la coriandre. Apparemment c'est.
Ah oui mais ça c'est pas une allergie.
C'est pas une allergie, ça c'est juste une fonction génétique. C'est-à-dire qu'il y en a des gens pour qui ça a le goût de savon.
Exactement.
Moi j'adore ça.
Voilà. Moi le savon goûte la coriandre.
Il faut préciser que la pièce n'est pas une pièce sur la diététique.
J'entends, mais j'avais du mal à faire un tour de table sur l'emprise si tu veux.
Et vous alors?
Voilà. Alors moi ce sont des oignons. Voilà en l'occurrence et je m'en souviens pendant plusieurs jours. Après en avoir mangé, parce que j'adore en plus épices saladières, j'adore les oignons cuits, caramélisés, mais ça résonne.
Moi j'ai pas d'allergie, juste la coriandre voilà, qui devient du savon dans ma bouche. Mais bon. Voilà.
Vous aussi Marie-Lou le...
Ah non, moi j'adore ça.
Josiane.
Ah non, hélas, je mange tout.
Ouais. Aucun peu d'intolérance dans la famille.
Ce n'est pas toléré. Les intolérances
ne sont pas tolérées. Nous allons parler donc de cette pièce. En effet, Tanguy, oui, pardon, les intolérances.
Moi, je suis allergique au caviar, à la truffe, au grand cru. Donc, du coup, d'avoir une vitre.
T'es radin, quoi, en fait. C'est ça. Exactement. Absolument, la pièce ne parle absolument pas de ça. C'est le point de départ sur lequel j'avais besoin de m'accrocher parce que le reste est fait de tout ce qui peut se passer au sein d'une...
Non, par contre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir une mère un peu envahissante, par exemple.
Oui. D'une famille. Est-ce qu'elle est vraiment envahissante?
Oui. Elle débarque sans prévenir. Même si à la fin, on comprend qu'elle avait des bonnes raisons.
Bah oui.
Mais elle est quand même... Elle débarque sans prévenir. Elle dit tout ce qu'elle pense en permanence.
Après, c'est une mère. Elle a le droit de venir quand elle veut.
Moi, ma mère, elle fait pas ça, pareil.
Non, non plus, mais bon, j'essaie d'imaginer.
Moi, j'écris, je mets un truc en 3 exemplaires et elle me dit, vous pouvez venir, on peut pas venir.
Il y a un règlement intérieur. Cette pièce, vous la portez, toutes les deux, Josiane Marie-Lou, avec Riad Ghami, qui joue votre mari Marie-Lou dans la pièce, et Lucie Beaumann, à la fin, dans le moment qui file les poils. Il y a plusieurs moments comme ça, très, très, très bouleversants. Dans les quelques représentations que vous avez commencé à faire depuis vendredi, si ma mémoire est bonne. Vous sentez ce retournement de situation? Ça commence comme une comédie familiale avec justement cette mère qui déboule de Noël, je me permets de la faire, et qui se retrouve invitée de force, gênante, et puis d'un coup, il y a des twists. Genre,
je trouve
pas
que
ce
le public a donné une dimension qu'on n'a pas forcément. On savait que les gens allaient rire, là, que le début était comme un.
Ouais,
ils rient vraiment beaucoup. Et petit à petit, il y a un truc.
La claque sera aussi d'autant plus forte par la suite, parce que beaucoup de personnes du public ne savent pas vraiment.
De quoi on parle.
De quoi on parle exactement. Ça, c'est l'amour. Ils savent que nous, on joue toutes les deux, donc ça peut être marrant. On est quand même réputé pour jouer dans des comédies. Et je pense que la claque et le choc est d'autant plus fort que ça, qu'il y a des choses très très drôles et beaucoup de gens sont venus nous voir en larmes à la fin.
Bah oui, on peut quand même dévoiler le sujet, même si les premiers spectateurs n'étaient pas au courant, mais ça va finir par se voir dans les critiques, dans les papiers, dans les commentaires. Il y a les violences conjugales, il y a l'emprise, il y a la domination de cet amour particulier de Riad Ghami, qui est un monsieur adorable dans la vie, super acteur, mais qui joue un vrai salopard.
Qui s'en prend à son fils aussi, parce que ces violences-là, elles touchent toute la famille.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le comportement de ce monsieur qui est en question. Et la pièce s'appelle « Ça, c'est l'amour ». Et j'ai envie de dire, elle aurait pu s'appeler « C'est l'amour, ça ?» avec un point d'interrogation. C'est-à-dire que on peut se poser la question de à quel moment la femme se dit « Oui, il m'aime ».
Celle parce que en fait, c'est la réminiscence permanente de son coup de foudre et de l'homme qu'elle a rencontré et qu'elle a envie aussi d'aider, de sauver. C'est la peur, la honte et le fait de rater quelque chose aussi qui fait qu'on s'enferme dans ça. Et je pense qu'on s'accroche aussi énormément à ce qu'on a aimé chez la personne, mais d'ailleurs, qu'il y ait des violences ou pas. Parce que je pense qu'on a tout été, à un moment donné, dans des relations plus ou moins intéressante, stable, okay. Voilà, sans qu'il y ait forcément de violence.
Mais comment rester dès la première, main qui se lève?
Mais parce qu'on l'aime et qu'on se dit que c'est de sa faute, parce qu'on se dit que ça va passer, qu'il a des raisons, que c'est dur en ce moment, que tout plein de choses.
Beaucoup,
un mec
beaucoup,
qui va, on s'engueule et il va insulter, on s'insulte. C'est le même raisonnement en fait, sauf que là on est dans des extrêmes.
Comprenez que certaines personnes peuvent ne pas comprendre qu'une.
Mais c'est, je comprends que beaucoup de ces personnes.
Que quelqu'un dans un couple, parce que ça marche dans les deux sens, d'ailleurs, que quelqu'un dans un couple reste malgré le mépris, la violence.
C'est quand même souvent des hommes, hein, mais.
Oui, oui. Mais malheureusement, tout existe. Voilà.
Bien sûr.
Mais à 98%.
Pas tous les hommes, mais 99% des hommes, quand même.
Non, mais j'ai dit 98, ne m'enlève pas ça. Mais il y a aussi mais l'inverse existe aussi. C'est tout ce que je voulais dire, dans des proportions extrêmement faibles. Vous comprenez que de l'extérieur, on puisse se dire comment rester dans un couple si on n'est pas respecté par l'autre.
Mais justement, c'est ce à quoi sert cette pièce, je trouve. C'est de pouvoir comprendre à quel moment, pourquoi on reste, enfin pourquoi, comment ça fonctionne, et surtout que dire aussi que c'est ces femmes qui sont coincées dans ces relations-là sont pas des femmes faibles, sont pas des femmes sans caractère. On pense souvent que ce sont des victimes effacées, et pas du tout en fait. Mathilde, dans la pièce, elle tient tête à son mec, elle essaye du moins, elle pense qu'elle peut toujours sauver quelque chose.
Elle le défend auprès de sa maman, qui ne l'a jamais vraiment senti. Elle savait qu'il y avait un loup.
On comprend pourquoi plus tard. Oui. On comprend pourquoi, parce qu'elle a quand même une certaine habitude de ce genre de personnage.
Cette pièce a cette force donc de passer par toutes les émotions, j'allais dire du rire à l'émotion, mais le rire est une émotion, donc il y a toutes les émotions. On rit, on commence à avoir peur, on s'inquiète, on est touché, on est ému, on rit à nouveau.
Il y a aussi un malaise. Il y a aussi un malaise parce qu'on va assister finalement à des scènes auxquelles personne n'assiste. Ouais.
Voilà, sauf quand on les vit.
On les vit.
Ouais.
Mais je trouve que c'est vraiment le mécanisme du contrôle coercitif, de l'emprise, et qui fait qu'on comprend pourquoi on reste, justement. Parce que c'est, l'emprise, ça, c'est détruire quelqu'un par tout un tas de mécanismes en l'affaiblissant et en lui donnant une image d'elle-même très pitoyable. Et c'est pour ça que les personnes sont coincées là-dedans. Je trouve que c'est.
Parce qu'il lui dit à la fois qu'elle est moche, qu'elle est hideuse.
Et qu'elle est belle et qu'elle est bandante.
Et merveilleuse. Et ouais.
Chauffe-froid, merveilleuse. Oui, c'est un plus joli mot.
Oui. Oh, le les deux peuvent aller ensemble.
C'est la même idée, on va dire.
D'autant qu'il y a cette sœur, ce deuxième enfant que l'on ne voit pas, mais dont on parle énormément, en tout cas en début de pièce, qui semble recevoir tous les griefs possibles et imaginables de la mère. C'est-à-dire que...
Ah oui, la mère n'aime pas... C'est pas qu'elle n'aime pas ce qu'elle est devenue.
Ah voilà, elle s'est embourgeoisée, oui, elle est limite facho.
Pour d'autres raisons, elle n'aime pas non plus son gendre de l'autre côté.
Voilà. Qui est un de qui a appelé son enfant eux.
Voilà, qui est extrêmement coincé.
Non, mais elle se moque de tout. C'est-à-dire des prénoms des enfants, du mode d'éducation, de comment on habille des jumeaux. C'est extrêmement drôle.
Oui, oui, non, elle est assez désagréable avec ses petits-enfants. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune empathie. Les petits-enfants sont des monstres. Elle attend, sauf
celui-ci.
Ah, le petit-fils qu'elle a eu, de que sa fille a eu, c'est l'enfant que sa fille a eu, est merveilleux.
Il y a... Ah bah, elle veut pas marcher ma guirlande de Noël. Bon, bah, c'est pas grave. Ah, si, ça, ouais, elle marchera plus tard. Ça, c'est l'un des personnages de la pièce. C'est-à-dire que comme s'il y avait un déclic automatique de la guirlande de Noël de cet arbre qui est... Il n'est pas au top, hein, l'arbre, non. On est d'accord.
On rappelle hein. la joie de Noël.
Ouais, c'est ça.
La féerie.
Il y a écrit Joyeux Noël dans le décor. Décor qui lui aussi va évoluer d'une manière impressionnante par la mise en scène de Jeanne Roth, actrice mais également metteuse en scène, qui a une très très bonne idée sur la fin. Ça par contre, avec votre permission, on va pas le spoiler, on va pas le dévoiler, parce que c'est aussi une belle surprise qui est offerte au public qui se rendra au Bouffe Parisien. On en parle jusqu'à 12h30, mais d'abord voici Lisa Delmoitier. Vous n'auriez pas écrit une pièce comme ça, vous, sur l'emprise et le couple, non?
Non, le nag.
Pourquoi?
Non, ça me déprime, ce schéma toxique qui se répète de génération en génération. Il faut briser la chaîne, ok? Vous savez, les traumas intergénérationnels, c'est un peu comme le film Aladdin avec Kev Adams. T'as du bon sens, tu fais pas Aladdin 2. Voilà. Libérons-nous du passé. Mais c'est pas si simple de rompre avec les dynamiques familiales négatives, parce que souvent ta famille est à la fois ton problème et ta solution. On le voit dans votre pièce, Josiane et Marie-Lou. La mère et la fille ont toutes les deux l'expérience d'homme violent. Parenthèse, mais je me plaindrai plus jamais de ma mère. Je suis bien contente finalement qu'on partage juste de la moustache. Et pas un moustachu. Enfin, franchement, on va chez le barbier ensemble, c'est sympa. Ça devient un petit moment mère-fille, c'est pas si mal. Vivement Movember. Mais soit, on voit donc que votre personnage, Marie-Lou, a reproduit un certain schéma, donc on pourrait se dire simplement, c'est la faute de la mère, plutôt tu coupes les points avec tes parents, mieux c'est, la famille, c'est comme l'argenterie, ça se liquide en vide-grenier. Parenthèse, mais j'ai jamais compris l'argenterie. Moi, comme ma cuillère vaut plus d'argent que ce qu'il y a dedans, bah, je bouffe la cuillère. Non, elle passe pas là. Mais c'est louche ou quoi? Non, mais c'est pas si simple. Un héritage, pour s'en débarrasser, il faut l'affronter, il faut aller à la source. Donc c'est bien souvent avec ta famille que tu finis par résoudre les problèmes qu'elle t'a causés. La famille, c'est comme la gueule de bois. Le meilleur remède, c'est de reprendre un verre. Conseil de ma psy. C'est comme ça que j'appelle mon barman. Mais les parents, ils sentent ça. Ils sentent ce qu'ils t'ont légué et ils sentent les emmerdes. Ils ont un instinct. Je vous jure, moi, je peux sourire. Je peux dire à ma mère que tout va bien. Direct, je vois qu'elle renifle avec son petit nez qui remue. On dirait ma sorcière bien-aimée. Ou un cochon truffier. Non. C'est comme ça que j'appelle mon barman. Merci. Bon, là où elle m'emmerde aussi, votre pièce, c'est que c'est clairement un manifeste en faveur des mères mêle-tout. Donc, je ne vais pas emmener ma daronne. Hein. Elle n'a vraiment pas besoin de carburant en plus dans son moteur du un message par jour et plus d'emoji cœur que dans ma conversation avec mon cardiologue. Non, moi, j'aime que ma mère me couvre et je pense que c'est jamais vraiment négatif. Un parent qui veut en savoir trop sur ta vie. Voilà. Déjà, quand ça me saoule, je me rappelle qu'il y a des gens qui n'ont pas de parents. Voilà. Hein, donc, vaut mieux un parent qui se mêle. Et me rappeler ça, ça me rend reconnaissante. Hein. Comme quand ça me saoule d'avoir le nez bouché, puis je me dis, au moins j'ai un nez. Voilà, hein. Donc, cesse de pleurnicher, Cyrano, c'est un pic, c'est un rock. Ok, c'est un nez, voilà. Puis les parents qui se mêlent, les parents qui jugent, ils ont toujours une utilité en vrai. Soit ils ont tort et ils te permettent de te conforter dans tes choix, de t'affirmer. Hein, tu doutes, tu juges, maman. Mais j'assume, oui, je travaille avec Nagui. Voilà. C'est pas ce que t'espérais, mais ça aurait pu être pire. J'aurais pu me droguer, j'aurais pu être skinhead, j'aurais pu participer à Danse avec les stars. Donc, soit les parents te confortent dans tes choix, soit ils ont un regard intéressant, du recul, et en même temps, ils te connaissent, donc ils peuvent te sortir de ta merde. Et parfois, t'es tellement empêtré, tu te dis, même ma mère y arrivera pas. Mais ma grande, come on, Tu crois que ta mère sait pas te sortir de ton couple? Enfin, elle t'a sorti de sa chatte. Oh. Je te débarrasserai de ton mec minable en 2-2 et sans péridurale. Surtout quand c'est un putain de mec violent qui souffle le chaud et le froid, qui t'isole de tout le monde, qui te fait du love bombing à coup de je t'aime quand il sent qu'il va te perdre. Enfin bref, le schéma classique de tous les mecs toxiques. Non, pardon. Not all men.
Ouais, merci, Elisabeth. L'une des questions que pose la pièce « Ça, c'est l'amour », c'est au Bouffe parisien, signé par Jean-Robert Charrier. L'une des questions, c'est aussi la manière dont la transmission se fait aussi. Comment est-ce que, oui ou non, on reproduit les schémas de ses parents? Est-ce que, oui ou non, on est toutes les mères sont intrusives et se mêlent forcément de la vie des enfants? C'est des questions qu'on peut se poser quand on est assis dans, dans la salle.
Mais,
côté génétique,
oui,
non
des scientifiques ont prouvé que les grands-parents, des événements marquants vécus par les grands-parents ont parfois des répercussions sur
dans l'ADN
des enfants, ou des petits-enfants. Donc c'est vrai que cette mère qui va en prendre plein la gueule d'ailleurs, parce que sa fille va tout lui balancer.
Vaut mieux avoir une mère un peu intrusive qu'une mère qui en a rien à foutre quand même.
Voilà. Donc elle va aussi avoir, on va lui chauffer les oreilles un peu pour lui rappeler la réalité et la remettre ce qu'elle a toujours apparemment nié avec ses enfants. Elle a toujours enfoui ça comme on enfouit des crottes, comme un chat enfouit ses crottes dans le sable. Elle a toujours enfoui ces merdes qui sont arrivées à ses deux filles parce que l'une comme l'autre ont vécu des trucs terribles avec un père qui était pas bien, qui était vraiment un alcoolique et aussi un salopard. Donc, ça va lui faire un bien fou que sa fille lui réchauffe la mémoire.
Est-ce que vous, ça vous fait du bien de faire justement une pièce qui porte en plus de la comédie, en plus de l'émotion, mais porte aussi un message?
Ah oui, bah c'est toujours bien.
On se sent, Non, mais on se dit, on est je sais pas, utile. Ah,
senti utile. Quand les gens rigolent, je me dis, je suis un peu utile quand même. Parce
clairement,
ils font beaucoup chier d'un seul coup. Ils viennent me voir jouer, ils rigolent un peu. Bon, j'ai justifié mon passage rapide sur cette terre. Donc,
ce qui est le cas avec cette pièce.
Mais oui,
mais
et
en
là,
plus, on
en
sort
plus,
de là, on discute.
On discute. Je pense que ça provoque. Je crois que. Je ne sais pas si c'est l'auteur qui m'a dit, parce qu'il est directeur du théâtre, Jean m'a dit qu'il y a un type qui est sorti de la salle.
Pendant la pièce ?
Pendant la pièce, avec un jeune mec de 40 ans, qui est sorti, qui n'a pas pu supporter. Alors, pour quelle raison est-ce qu'il a vécu ça ou est-ce qu'il l'a produit ? On ne sait pas. Enfin, c'est...
J'étais pas bien.
Ma mère, c'est voilà. Vous ressentez ça aussi, la portée utile de faire une pièce autour de ces sujets pour peut-être libérer la parole de certaines personnes d'ailleurs.
Oui, j'ai quelqu'un que je connais peu mais que j'ai rencontré il y a pas longtemps qui s'appelle Mathilde, je sais pas si tu la connais, qui est chanteuse.
Formidable chanteuse, Mathilde.
Géniale. Et je l'ai invitée parce qu'on se parle sur Insta et je lui ai dit viens voir la pièce, ça me ferait plaisir de te rencontrer. Et elle a fait un reel sur Insta pour expliquer ça parce qu'elle s'appelle Mathilde. Comme mon personnage, et elle a vécu des violences. Donc elle m'a dit, ça m'a fait vraiment très bizarre.
Beaucoup d'écho, oui.
Ouais, vraiment. Et en même temps, elle en parle super bien, et elle dit que, de ses propres mots, elle dit que c'est quelque chose qui l'a presque un peu réparé, en fait, et elle s'est sentie reconnue, vue, elle s'est sentie...
comprise, peut-être.
Comprise, aussi, ouais. Et que c'était pas justement quelque chose où on expliquait comment fallait penser, quel jugement il y avait dessus. Et son message est vraiment... ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et moi, ce qui est un peu nouveau pour moi, parce qu'effectivement, j'ai plus fait des comédies jusque-là, c'est de provoquer autant d'émotions. Et ce qui est encore plus génial, c'est que c'est un personnage, Mathilde, qui provoque énormément d'empathie. Et ça, c'est assez fou quand on sort de scène, parce qu'effectivement, les gens viennent vous voir les larmes aux yeux. Et alors, ils ont plus envie de mettre un pain à Riyad, malheureusement.
Il y a des réactions, gens qui disent « je pourrais le buter dessus ».
Mais évidemment, c'est pour ça que j'ai commencé par dire que c'était un gentil et formidable acteur. Riyad, parce que...
Heureusement, mais ça serait impossible de jouer ça avec un mec. C'est pas possible. Heureusement que c'est un mec adorable.
Mais qui joue bien le...
Et on a d'autant plus d'empathie pour Mathilde que c'est en effet un personnage qui résiste.
Oui.
C'est pas un...
Mais c'est quelqu'un comme tout le monde, en fait.
Exactement.
On peut s'y projeter extrêmement facilement.
C'est très juste. Oui. C'est très juste parce que c'est pas simplement une victime. Je dis pas qu'on n'aurait pas de l'empathie pour la victime à proprement parler, mais il y a aussi, on peut s'identifier d'autant plus à elle.
Mais parce que les victimes sont souvent comme ça, en fait, comme tout le monde.
Mais qu'on n'imagine pas de loin.
Alors, je tenais à ce qu'on parle énormément de la pièce, des actrices, des acteurs de cette pièce et du jeu, pour ne pas prendre le prisme people qui a été beaucoup utilisé autour de cette pièce. C'est-à-dire, vous retrouvez toutes les deux sur scène, évoquons quand même le fait que vous ayez déjà travaillé ensemble, mais jamais en étant sur les planches.
Voilà. Et puis jamais avec des rôles aussi importants toutes les deux.
Des rôles dramatiques.
Les films qu'on a fait ensemble, c'était pas des films où on passait 30 jours ensemble à tourner. Enfin, là, c'est vraiment, on est toutes les deux sur scène avec Riyad.
Et à la fin, la jeune femme qui fera la voix
l'interrogatoire.
De l'interrogatoire, enfin, qui est une sorte de société qui va aider les jeunes femmes.
Lucie Baumann, Conti du studio SK. Est-ce que ça change quelque chose dans la manière de le jouer? Comment Jean vous a expliqué le fait de vous convaincre toutes les deux en disant ça serait bien que vous le fassiez? Est-ce que vous auriez accepté cette pièce même si ça n'avait pas été votre mère qui jouait à vos côtés?
Oui, mais je pense que si on me l'avait proposé, j'aurais dit proposons à ma mère, parce que j'ai un rôle de mère.
Elle fait bosser sa mère. Hein.
Et surtout, il y a un rôle de mère dans un film ou dans quelque chose qu'on propose, je me dis c'est le plus logique et c'est le meilleur emploi qu'on puisse avoir. Et puis c'est le plus facile pour nous.
Mais je veux dire aussi que cette pièce-là peut être jouée par des comédiennes qui n'ont aucun rapport de famille entre elles, parce que c'est des vrais rôles extrêmement bien écrits. Voilà.
Et ça rajoute quoi alors le fait de...
On est en sécurité. Complice. Je sais pas, je me sens en sécurité avec ma fille. Je sais pas que j'ai le trac et toi aussi. Puis je le regarde, je dis pourvu que je le foute pas dans la merde, tout ça.
Non, et puis c'est surtout facile.
Je suis en confiance.
On n'a pas besoin de jouer. Enfin, autant avec Riyad, il a fallu trouver. On se connaissait pas les premiers jours des répètes. C'est quand même un mec qui va me toucher, me rouler des pelles, me frapper. Enfin voilà. Et quand tu connais pas quelqu'un, créer cette intimité, c'est du travail en fait.
Encore plus au théâtre. Parce qu'au cinéma, on va voir avec la caméra comment on fait. Mais
oui,
là,
mais créer cette intimité, c'est ce qui n'existe pas. Pour le coup, là, on n'avait pas besoin de le jouer.
Vous avez l'habitude de vous faire des câlins et de vous embrasser comme dans...
Oui, après, on ne se fait pas énormément de câlins, on ne s'embrasse pas énormément, parce qu'on est assez pudique dans cette pièce.
Sur scène, il y a deux, trois câlins, quand même. Heureusement, qui sont même touchants, émouvants.
Oui, c'est vrai,
Et qui arrivent au bon moment pour planter les choses. Josiane Balasco, Marie-Lou Berry, avec Riyad Ghami, Lucie Baumann, c'est au Bouffe Parisien, s'appelle Ça, c'est l'amour. Voici Amandine Louvel.
Salut, Louvel, salut à tous, ça va bien? Écoutez, à l'heure où on veut interdire les téléphones portables au lycée, je me suis questionnée sur mon rapport au numérique et j'ai réalisé que je suis complètement passée à côté des émoticônes. Dès quand ça a commencé, je trouvais ça pourri, je me suis dit ça va pas prendre. En même temps, j'avais dit pareil du macronisme et des cigarettes électroniques. Hein. Je me retrouve à regarder notre pays s'écrouler en fumant de l'eau chaude à la papaye. Et bien sûr, comme avec toutes les nouvelles technologies, la génération de nos parents n'était pas préparée. Ils se sont pris les smileys de plein fouet, ils n'arrivent pas du tout à doser. T'sais, ma mère, c'est plus des messages qu'elle envoie, c'est des rébus.
Ah oui.
L'autre jour, je reçois une queue de raton laveur, une fée, un smiley qui dit chute, le chiffre 2, une tasse, une oie et une note de musique. C'est un peu périlleux d'expliquer un rébus à l'oral, j'aurais peut-être pas demandé là-dedans. En fait, c'était « que fais-tu de ta soirée ?» Moi, j'étais avec un mec, alors j'ai répondu par l'émoticône pipe. Mais c'est une pipe toute plate, l'émoticône pipe. Ma mère a cru que c'était une flûte. Elle m'a répondu « Je suis fière que t'ailles à la philharmonie, on se comprend mal. » Après, bon, si les émojis, c'est infuser le plus de sens dans le moins de signes, ça peut être utile, bien sûr. Je veux dire, on aurait pu faire tenir l'intégrale des bouquins de Marlène Schiappa sur une page et demie, ce qui, mine de rien, serait un bon bilan pour l'écologie. Émoji Marine Tondelier contente. En plus, j'ai l'impression que maintenant, si tu réponds à un message sans mettre à la fin 4 cœurs, 2 singes qui pètent et 3 camions pizza, t'as l'air passif, agressif.
C'est vrai.
Tu sais, l'autre jour, j'ai une pote qui me demande si on se voit toujours ce soir. Je lui réponds oui. Et là, elle me sort, cache ta joie. Ah bah pardon d'avoir oublié de mettre 14 émojis peintes de bière pour illustrer la liesse que c'est de descendre du houblon avec toi et ton mec qui peut pas me piffrer depuis que je l'ai appelé Océdar toute la soirée à ton anniversaire parce qu'il a obligé les invités à mettre des patins pour pas abîmer le parquet. Qui fait ça? Oui, c'était pas sympa, mais t'as déjà essayé de rouler des pelles en chasse-neige, Anaïs? Émoji MDR. C'est d'ailleurs la même pote qui me dit, c'est trop bien les émojis, ça fait gagner masse de temps en fait. L'autre jour, je lui dis, mais du temps pour faire quoi? Elle me regarde en pensant me foutre une douille. Elle me dit, bah, pour lire, en fait. Donc, moi, ah ouais, tu lis quoi en ce moment? C'est vrai que je suis un peu passive-agressive.
Ouais.
Elle me dit, bah, j'ai la femme de ménage. J'ai dit, ah bah oui, il va t'en falloir du temps. Ah bah, c'est un succès, cette saga. Je veux dire, là, on en a au moins pour 5 ans. La femme de ménage se marie, les secrets de la femme de ménage fait du ski, ne le dit à personne que je suis femme de ménage, la femme de ménage n'a pas tous ses trimestres, la femme de ménage contre l'URSSAF, la femme de ménage est sous OQTF. Émoticône masque, émoticône plume. Après, je critique parce que c'est pas la phénoménologie de Merleau-Ponty que j'ai pas dit, mais que j'ai réussi à dire sans bégayer. Mais au moins, elle lâche son cordon de téléphone pour poser ses yeux sur une feuille de papier. Est-ce qu'on peut parler des cordons de téléphone? Je veux dire, pourquoi? Je veux dire, à l'heure où on sait qu'on est collectivement en train de lâcher la rampe à cause de la surstimulation et de la surconsommation, ils nous font des cordons de téléphone à caractère décoratif en plus. Maintenant, il y en a en perles avec des cœurs, avec des nœuds, mais niquez-vous. Je veux dire, il y a quand même une marque de cordon de téléphone qui m'a sollicité pour être leur égérie, mais virez votre directeur marketing. Genre, moi, à moins que le cordon soit équipé d'une déviation avec une paille qui mène à une casquette avec des canettes de goudal de chaque côté, c'est non. Dire, on a trop d'objets. Vous vous rendez compte, si Anne Frank avait eu autant de merde que nous dans son grenier, elle aurait passé son temps à faire du tri, elle aurait écrit un tutoriel sur le rangement à la Marie Kondo, on n'aurait pas eu le journal, mais la méthode Anne Frank, on serait passé à côté d'une œuvre majeure. Bon, ceci dit, elle aurait peut-être pu se cacher derrière un vélo elliptique quand ils sont venus la chercher. Mais c'est une autre histoire.
Oh.
Et puis, tout doit être fun maintenant, tu sais, tout doit être mignon, tout doit être cœur, je sais pas, ça doit être pour pallier à l'hostilité du monde. Est-ce qu'ils faisaient ça au Moyen-Âge? Est-ce que quand ils envoyaient des pigeons voyageurs, ils leur foutaient des perruques, des petites doudounes roses et des plumes dans le cul pour rendre le message plus fun? C'est oh yeah les frères, bon, ils ont cramé Jeanne d'Arc, mais trop fun les plumes, lol. Emoji féministe coupe au bol en colère. Merci de m'avoir écouté.
Merci, Amandine Lourdel.
Et Amandine Lourdel, tu es sur scène demain, mercredi 28, le 7 février et le 12 février, tu seras à l'Européen à Paris. Puis on te retrouve aussi en tournée, le 8 février, tu seras à Grenay, c'est dans le 62.
Mais c'est vrai que t'es raide dans tes messages, je trouve.
Mais t'as raison sur l'émoticône qui est comme ponctuation pour... Ouais.
Quelque chose à dire sur le cordon du téléphone, Marie-Lou.
ça fait quand même 20 ans que ça existe.
Elle a son téléphone, si jamais.
Cordon.
Okay,
sinon, je le perds.
Voilà, mais c'est, écoutez, ne vous justifiez
pas. Il est
pas
décoratif, t'as vu?
Non,
il est un peu. Il y a des paillettes quand même.
Arrête, Amandine. Arrête, mais laisse-la tranquille. Elle fait ce qu'elle veut.
Et j'ai aussi une cigarette électronique.
Et elle danse. Ça fait partie de la musique qui est présente dans Ça c'est l'amour, Marie-Lou Berry, et une chorée à Calais avec Riyad Ghami. Mm-hmm. Ça m'a tellement fait rire. C'est pas fait pour faire rire au début.
Mais c'est vrai qu'elle est plutôt drôle.
Ouais. Ah non, c'est plutôt drôle, ouais. C'est tellement drôle.
Ça rappelle l'amour, quoi.
Ouais, c'est ça. Mm. C'est leur chorée de mariage. Mm.
C'est ça. Alors, je sais pas si dans tous les mariages, il y a des chorées...
Bah souvent, c'est des trucs que les mariés font.
Ah bon? Vous avez fait ça?
Ah bah non, ça n'existait même pas le mot chorée à l'époque.
Je crois que c'était mon mariage.
En fait, pas trop. Cette musique fait partie donc de la BO de Ça, c'est l'amour au Bouffe Parisien. On va parler de la musique, justement, dans vos vies. Et on va évoquer tout à l'heure avec notre invité...
Anne-Cécile Maillefer.
Anne-Cécile Maillefer, fondatrice et présidente de la Fondation des femmes, des violences conjugales. Comment quitter le domicile en cas de violence conjugale? C'est la question que nous lui poserons. La musique dans votre vie, Josiane Balasco. On va commencer par Eurythmics. On est en 82. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Qu'est-ce que c'était bien ça?
La beauté étrange de la chanteuse, magnifique.
Annie Lennox, ouais.
Annie Lennox.
Androgyne et une voix d'une puissance incroyable. Sweet Dreams, vous entendez cette musique? Vous voyez en train de l'écouter, de la danser
Je ne sais pas si je la dansais. Moi, j'arrive pas jusque-là, mais en tout cas, je l'écoutais. Oui, c'était une musique qui vous prenait. Ça a été un tube, d'ailleurs, énorme. C'était une musique qui vous restait dans la tête, quoi.
Sweet Dreams, on est en 82. Leïla, que se passe-t-il dans la vie de Josiane Balasco?
Le Père Noël est une ordure. Sortie du film, que la RATP et la ville de Paris boudent un peu, ils ne veulent pas louer les emplacements publicitaires pour faire la promotion du film.
Oui, parce qu'ils trouvaient que là même c'était une attaque directe au Père Noël. Ah, Père Noël, c'est une ordure. Mais cela dit, les enfants qui croient au Père Noël, enfin, qui savent que le Père Noël existe, ils ne savent pas lire.
Non, c'est vrai.
Donc, ils n'auraient rien vu.
J'avais pas pensé à ça.
Bah oui, donc, voilà.
Si, certains, quand même. S'il y en a quand même quelques-uns qui savent lire à cet âge-là.
À cet âge-là.
Oui, oui. Oui.
Non, mais peu importe. En tout cas, c'est...
En plus,
ils n'ont pas saisi l'humour. Il a fallu quoi? Il y avait un tribunal de la
vanne. La pièce, c'est pour le film, parce que la pièce avait été un succès et tout ça.
Et d'autant plus qu'ils ont échappé au titre « Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul ».
C'est pas forcément ma meilleure idée.
Et pourtant,
je suis assez extrême par moment. Et t'as refusé à l'unanimité.
C'était votre idée. C'était votre idée.
C'est tellement drôle. Tellement drôle. Mais pourquoi ils l'ont refusé?
Mais oui.
Non, alors là, c'est même pas la RATP qui
fait ça. Oui, oui, non, j'ai bien compris.
Parce que j'imaginais.
Ça coupe un peu beaucoup d'un public quand même.
On imagine le Père Noël avec un revolver. Et vraiment.
Alors vous n'êtes pas obligé non plus de faire un rébut du titre.
Mais... Non, c'est pas un rébut, je montre. Mais on est à la radio, ça va.
On va passer dans ces années-là avec Culture Club et vous, Marie-Lou Berry. Culture Club et Do You Really Wanna Hurt Me. Alors, c'est pas forcément la musique que vous écoutiez dans ces années-là, parce que c'est l'année de votre naissance.
C'est ma naissance, forcément.
Mais c'est un souvenir de la musique de votre naissance. Est-ce qu'on entendait un peu à la maison?
Je sais pas, c'est une musique que j'aime beaucoup et qui se trouve être à peu près de cette année-là.
Exact, exact.
Et qui est, c'est pas, elle est pas dans Gazon Maudit, cette musique?
Non, c'est White Orchid of Pale, qui est encore bien, qui est bien...
Procola Rume, avant.
Et qu'est-ce que ça fait de grandir avec une mère extrême comme ça dans l'humour?
Qui croit au Père Noël, qui croit au Père Noël.
Mais la Culture Club, bon, je l'ai écouté aussi, c'est vraiment des... Je crois que c'est intergénérationnel.
Ah oui, mais ça continue ou ça revient, en fait.
C'est une musique qui n'est pas datée, je trouve. Elle vieillit pas, cette musique, elle est intemporelle.
Comment vous qualifieriez votre enfance? Timide ou au contraire...
Je sais pas, je la qualifierais de mon point de vue plutôt, plutôt chouette. J'ai eu... je sais pas, vraiment je sais plus quoi dire à propos de mon enfance, à part que
vous avez dit là récemment que vous aviez du mal avec ceux qui avaient le même âge que vous et que vous étiez plus à l'aise avec les adultes.
Ah oui, mais ça c'était un peu plus tard, mais petite fille, j'avais moins cette conscience là, mais oui, très vite les enfants de mon âge m'ont saoulé et je traînais avec des gens plus âgés que moi très très vite, à partir de 13-14 ans quoi.
Mais à quoi comment vous l'expliquez?
Je sais pas, parce que je me sentais pas dans le truc. Tout me paraissait absurde, ce qu'ils aimaient.
C'est-à-dire que t'allais aussi dans des écoles où d'un coup il y avait des modes de trucs qui coûtaient du fric et tout. Marie-Lou n'en a jamais, et ça vraiment je trouve ça formidable, n'a jamais eu rien à foutre
des
modes, des marques, d'appartenir à une tribu. Mmh. Ça c'est vraiment important quand on veut développer sa personnalité.
C'était une question
d'être obligé d'appartenir à une tribu.
J'entends, mais c'est une question de maturité, de ne pas s'entendre avec les petits et d'être intéressé par les grands.
Je sais pas si c'est de la maturité, mais en tout cas, ça ne m'intéressait pas. Oui, ça me leurs enjeux, les choses sur lesquelles ils hallucinaient. Enfin voilà, ça me le fait de, par exemple, l'école. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à l'école et je trouvais ça incroyable que tout le monde était en panique à l'idée de. Moi, je me rappelle, je faisais pas mes devoirs très rapidement. Mes parents ont arrêté de surveiller si je faisais mes devoirs et je ne les faisais pas.
Très rapidement, ou ils ont jamais vraiment surveillé?
Ah, si, ils ont surveillé jusqu'à ce que je sache lire et écrire, on va dire. Et après,
après les sauver.
Et du coup, je voyais toute la classe entière faire le devoir 3 minutes avant de rentrer dans la salle en copiant sur la personne qui les avait faites.
Okay.
Et je me disais, mais quel est l'intérêt? Soit on fait ses devoirs pour apprendre quelque chose, soit on les fait pas. Je vois pas l'intérêt. Donc moi, je les faisais pas. Puis évidemment, je me prenais un zéro.
Un peu extrême aussi, donc.
Avec l'angoisse, tout le monde était là. Parce que si on voit que je les fais pas et machin, je vais me prendre un truc. Et moi, je sais pas pourquoi, je me suis toujours dit dans cette période, dans 5 ans, j'en rigole.
Parce que t'avais des parents qui n'allaient pas gueuler en rentrant parce que t'avais pas fait tes devoirs. Il y a ça aussi.
Un petit peu. Je me faisais un peu.
Très peu.
Je faisais un peu engueuler.
Et pourquoi très peu, justement, Josiane?
Parce que moi non plus, j'avais été nulle. si j'étais nulle à l'école, son père aussi.
Et c'est pas tant de me faire engueuler ou pas engueuler, c'est surtout que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui
Il y a des choses plus importantes que.
Mais au-delà de ça, qui prenaient en compte mon ressenti. C'est-à-dire que c'était, il y a beaucoup de parents qui font une espèce de confiance aveugle en disant si le prof a dit ça, si l'école a décidé ça, c'est que c'est bien. Moi, je m'en fous de soi, ce que tu penses.
Ouais.
Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui disaient « Ah bon, la prof a dit ça ? Mais comment ça, elle a dit ça ? Mais attends, passe-moi ton cahier, on va écrire un mot. » Alors, c'était un peu chiant des fois, parce que ça créait des... J'ai encore les échanges dans certains cahiers de correspondance.
Il y avait aussi des méthodes assez stupides pour apprendre l'histoire.
Voilà, mais c'est rare d'avoir des parents qui remettent en question les méthodes.
Les grandes découvertes, c'est ça. Il faut apprendre 3 dates. Mais on t'explique pas ce que c'est que les grandes découvertes. Alors, t'apprends 3 dates, 1492, machin, ceci, cela, l'invention de
la. Et puis les règles absurdes.
T'apprends pas que les grandes découvertes, c'est ça. Et une fois que t'as appris ce que c'est, les dates n'ont plus aucune importance.
Alors, quelles étaient les valeurs que vous vouliez absolument.
Je sais pas si tu te rappelles la prof qui voulait pas que je mette de basket en classe.
Ah oui, je me
souviens. Ça, j'ai encore mon cahier de correspondance avec les échanges de mots. On a une prof qui voulait pas. On a une école publique, hein, pas du tout privée, ouais. Une école publique. La prof ne voulait pas qu'on porte des baskets.
Ah bon,
parce qu'elle trouvait que c'était mauvais, ça puait, et que voilà. Alors qu'on allait tous courir dans la cour de récré après, elle voulait qu'on ait des chaussures de ville, lunaires quand même. Et elle donnait des lignes à tous ceux qui mettaient des baskets. Et un jour, je viens en basket et je rentre à la maison avec 200 lignes à copier. Wow. Et mon père me dit, mais c'est quoi ce bordel ? Comment ça, tu vas pas copier ça ? Attends, file-moi ton. Et c'était gênant parce que j'étais la seule qui mettait des baskets en classe, du coup. Mais j'ai mon père...
En sachant que vous n'aviez pas le droit.
En sachant que je n'avais pas le droit. Mon père est allé à l'école dans sa tenue d'atelier dégueulasse.
Sculpteur,
voilà, pour voir la maîtresse et lui dire mais comment ça alors que les autres parents disaient bon bah d'accord mais pas de basket et je pense que c'est ça aussi qui m'a donné moi le sens de la remise en question de
mais alors
de
du
pas...
coup le contrat qu'on passe avec l'école c'est qu'on va à l'école on fait ses devoirs. Mais, et on conteste quand les choses sont illégitimes et pas justes. Mais oui. Là, du coup, on va à l'école, on fait passer de voir, mais on conteste quand c'est illégitime. Est-ce qu'il y a pas...
Oui. Ben non, mais
partir,
moi,
j'avais rien à faire. Les profs, hein.
Je suis une ancienne prof. Mais c'est genre, mais j'écoute, j'en
elle n'avait rien à foutre de l'école. Et je ne pouvais pas lui dire
ça. Mais surtout, c'était pas intéressant.
C'est ça, parce que la manière dont c'était enseigné, c'est pas non. On sait très bien que la manière dont beaucoup de choses sont enseignées, c'est pas de la faute des profs. Hein. C'est de la faute des mecs. Par exemple, l'écriture globale, ça a été une erreur, mais colossale, où des générations, une génération est devenue illettrée. Avec la lecture globale. Vous savez, on n'apprend pas normalement, on apprend... Enfin bref. Donc ça, c'est des grosses, grosses conneries qu'il faut remettre en question.
Qui n'existent plus, ça.
Mais qui n'existent plus, mais qui ont existé pendant longtemps.
Ils sont quand même revenus, il n'y a pas longtemps, sur un mélange des deux.
Semi-global, donc la semi-connerie.
Ça change tous les 5 environ.
Mi-syllabique, mi-global, c'est
ouais.
Ça.
Voilà, semi-global.
C'est-à-dire que tu apprends en même temps des mots par cœur, et en même temps, tu apprends les syllabes.
Ça dépend, ouais.
C'est un brillant esprit.
Non, mais ça veut dire, Josiane...
Elle redémarre très vite,
Josiane, qu'il faut avoir quand même foi en l'avenir, en tout cas...
Ah, moi, j'aurais fait bouffer son
Josiane, il faut quand même avoir un peu foi
mais
en l'avenir.
Mais à côté de ça, j'aimais beaucoup lire. Ou... À côté de ça, beaucoup de choses m'intéressaient. Enfin, j'étais pas...
Oui, mais il faut avoir foi en l'avenir et une grande confiance dans l'avenir aussi, parce qu'on sait très bien qu'il y a quand même des passages un peu obligés avec l'école pour faire des études. Si éventuellement on veut faire des études...
C'est très bien qu'avoir son bac aujourd'hui n'amène aucun travail.
La lecture globale a donné une génération d'illettrés.
C'est pas parce qu'on fait des...
Continue encore maintenant aux deux gens qui savent à peine écrire, puisque beaucoup de profs, peut-être vous avez pas eu ce problème-là. On demande aux profs de passer, on demandait aux profs de passer sur les fautes d'orthographe pour le bac. C'est-à-dire qu'on a des gens qui écrivent des trucs qui en font 10 fautes, mais qui sont pas prises en compte. Sinon, on n'aura pas 90% de réussite au bac, ce qui est un taux africain, si vous voulez, de réussite au bac.
Non, par exemple, pour la dissertation, c'est simplement pour ne pas pénaliser un élève. Par exemple, vous êtes très mauvaise en orthographe. Il y a des épreuves. La dictée sanctionne l'orthographe grammaticale et lexicale. En revanche, la dissertation, l'orthographe est importante, bien sûr, mais ce qui compte, c'est l'idée qu'on y met. Quand on est incapable.
Mais si on fait des dictées, c'est pour qu'éventuellement on écrive bien les dissertations.
Je sais bien, mais voilà, sauf que quand la dictée, c'est plutôt au collège et qu'on fait plus de dictée au lycée, ensuite, ce qu'on évalue, c'est pas tant votre capacité à écrire correctement, mais qu'à dire des bonnes choses. Mais c'est intéressant pour les gens pour les gamins, par exemple, qui n'arrivent, qui sont toujours violentés en orthographe, c'est qu'ils ont des idées, ils ont plein de choses à dire, mais le problème, c'est que d'un point de vue académique, ça passe par l'écrit.
Mais le problème, je trouve que les méthodes font des cercles et reviennent toujours au même point. Moi, par exemple, en 6e, j'arrive, on commence l'anglais, premier cours de ma vie d'anglais, la meuf fait un groupe de niveau. Voilà, pour décider les bons, les mauvais. Il y a pas longtemps, on y est revenu. Ça a été un débat il y a quelques temps de faire des groupes de niveau, mettre les gens qui sont moins bons ensemble. Alors qu'on sait pertinemment que la mixité à tous les niveaux, d'ailleurs,
fait du bien à tout le monde.
Fait du bien à tout le monde.
Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que les élèves qui sont plus favorisés, les parents vont les mettre dans des structures où ça roule un peu mieux pour pas qu'il y ait cette mixité. C'est-à-dire, j'entends.
Ça, c'est ni la faute des profs ni la faute des élèves. C'est les parents. C'est les parents
aussi
qui veulent l'excellence.
La faute des écoles parce qu'il y a pas assez de profs, parce qu'on supprime des cours de plus en plus. Dire qu'aujourd'hui...
Vous imaginiez qu'on allait faire...
Non, mais c'est intéressant.
On rappelle que sur France Inter, on est écouté par beaucoup de profs qui sont convulses. Hein.
2006.
Qui font un boulot formidable et qui ont beaucoup
qui
de mal
par le faire.
Josiane Balasco, vous écoutiez en 2006.
Taille-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat.
La femme chocolat est en 2006, Leïla. On est avec les bronzés.
Les bronzés, trois amis pour la vie de Patrice Lecomte. 10 millions d'entrées. Joie de retrouver sur grand écran cette bande historique. On en parle souvent dès qu'on reçoit un membre de cette équipe. J'ai une pensée en particulier pour Michel Blanc.
Bon, on a tous une pensée pour Michel. Ouais. Alors bientôt, Michel aura une place à son nom.
C'est vrai.
Dans le 4e arrondissement.
Génial.
Voilà. Ça, donc voilà, on ira inaugurer Michel qui sera dans le 4e arrondissement sur sa place.
Il aimait bien le 4e arrondissement.
Il vivait dans le 4e, voilà.
D'accord.
Joli. Qu'est-ce que vous avez grandi avec ces bronzés? Vous avez évidemment vu tout ce que votre maman a pu jouer au cinéma,
au théâtre.
J'ai vu les
films, mais j'ai pas grandi avec le Splendide. Moi, je les connais très peu. J'ai tourné avec Gérard Jugnot plusieurs fois. J'ai croisé Michel Blanc quand il travaillait avec ma mère.
Mais avec les répliques cultes, que ce soit avec vos potes ou autres, quand vous entendiez
Ouais, mais finalement, moi, j'ai un point de vue presque de spectateur là-dessus, ouais, parce que c'est pas mes tontons. Enfin, c'est-à-dire que malheureusement, ma mère les voit très rarement. Ils se voient très rarement. Quand ils se voient, c'est incroyable. Mais j'ai pas de souvenir de dîner à la maison avec toute la bande, tout ça. Mais non, moi, j'adore ça comme une spectatrice.
C'est vrai que vous avez envie d'écrire et de les faire jouer tous ensemble? Ou c'est une rumeur?
J'adorerais, oui, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un autre volet, je pense qu'il y a un autre volet à faire, ça
mais
c'est sûr.
Que vous l'écriviez, que vous réalisiez.
J'aimerais bien, ouais, mais pour l'instant c'est vraiment, c'est même pas sorti de ma tête encore.
Vous, non mais de votre cœur là à l'instant, oui. En 2006, justement, Marie-Lou Berry, vous écoutiez... Peggy Lee et un Molière.
Et Toc Toc, ouais, oui. Molière pour Toc Toc. Molière de la révélation théâtrale pour cette pièce de Laurent Baffy. Vous pouvez nous pitcher en quelques mots, résumer en quelques mots l'intrigue de Toc Toc.
Déjà, je trouve ça incroyable d'avoir pu associer le nom de Molière à celui de Laurent Baffy.
Incroyable pour lui, d'ailleurs, il en est même pour lui.
Toc Toc, c'est des gens qui ont des troubles obsessionnels et compulsifs du comportement qui se retrouvent dans une salle d'attente pour aller voir un psy qui ne va jamais arriver. Et mon personnage était atteint de d'écolalie, c'est-à-dire qu'elle répète tout deux fois.
C'était très très drôle. Très
donc il a écrit que la moitié de la pièce, c'est génial.
C'était génial.
Nous reparlons de Ça, c'est l'amour, cette pièce jouée au Bouffe Parisien, signée par Jean-Robert Charrier.
Au sujet de mon Molière, je voulais juste passer un message. Quand j'ai eu le Molière de la révélation féminine, je l'ai eu avec James Tirey qui était Molière de la révélation masculine, sauf qu'ils se sont trompés. Ils m'ont donné le Molière de la révélation masculine.
Trophée, ouais.
Donc c'est gravé masculine sur le vôtre,
ouais,
c'est ça?
Mais je me dis, c'est cool, c'est le seul que j'aurai plus jamais. Et un jour, je recroise James Tirey, et je lui dis, dis donc, tu sais que c'est toi qui as mon Molière et moi j'ai le tien. Et il me dit, bah ouais, mais alors le truc, c'est que la meuf avec qui j'étais à l'époque est partie avec.
Mais non!
Je lance un message à cette dame. Je sais que tu as mon Molière.
Est-ce que vous voulez le récupérer ou vous gardez le masculin?
Non, mais je veux qu'elle sache que c'est pas son Molière.
Anne-Cécile Méfer nous a rejoint. Bonjour, Anne-Cécile.
Bonjour.
Merci
bonjour.
D'être présente à ce micro que vous connaissez bien, puisque vous
avez officié
sur l'antenne d'Inter, fondatrice et présidente de la Fondation des Femmes. Tout à l'heure, je disais que c'est toujours un peu surprenant quand on entend qu'une femme est victime de violences conjugales et que malgré ces violences, elle reste. Vous comprenez aussi qu'on puisse se poser la question, même s'il y a toujours une explication à donner au fait qu'elle soit amoureuse et qu'elle soit sous emprise.
Oui, oui, et c'est d'ailleurs ce que beaucoup de proches nous disent à la Fondation des Femmes, et ce qu'elles disent aussi quand elles appellent les numéros d'écoute et d'information. C'est effectivement ce désarroi, le 3919 par exemple, qu'il faut appeler, que vous soyez victime ou témoin. C'est vraiment le grand désarroi des proches, de dire mais je comprends pas pourquoi elle reste. Et ça, c'est vrai que ça demande un petit peu d'explication, un petit travail. Nous, on sait pourquoi elle reste. On a conscience à la fois de ce que vous avez appelé l'emprise, qui est tout à fait vrai, à la fois aussi du cycle des violences, c'est-à-dire qu'en fait il va y avoir des violences, puis après il va y avoir la lune de miel parce qu'il va s'excuser et ça va être les excuses les plus extraordinaires du monde et les fleurs et les je t'aime et les voilà. Et du coup c'est sûr que la dame elle a envie de repartir, elle a envie d'y croire. Et puis c'est aussi les difficultés matérielles et financières.
La dépendance absolument, sociale, quoi, en fait.
Absolument.
Ouais. Quand on a un enfant,
cette dépendance-là, elle est aussi construite hein, par le conjoint violent. Mm.
C'est-à-dire que
c'est important parce que d'ailleurs, tous les combats qu'il y a pour l'égalité économique, c'est aussi pour ça.
Absolument. C'est extrêmement lié, tous les combats pour l'émancipation économique des femmes, c'est très important pour qu'elles aient les moyens de pouvoir choisir, de pouvoir partir quand et si elles le souhaitent. Et c'est sûr que nous, à la Fondation des Femmes, on soutient beaucoup de projets, on les finance hein, grâce aux dons des gens. On va reverser cet argent aux associations et on finance par exemple des déménagements solidaires pour aider la dame à prendre ses meubles et ses affaires, parce que sinon elle part avec rien. Mais la plupart des dames, elles ont quand même des choses, ne serait-ce que l'album photo des grands-parents, des mariages, la trottinette de l'enfant, voilà des choses qui sont importantes pour redémarrer dans la vie et pas repartir comme si on avait été pénalisé. Oui. Ça fait partie des choses qu'on fait mais qui sont encore malheureusement trop peu déployées sur tout le territoire.
Alors, il n'y a évidemment pas de débat sur les violences physiques. Le moindre geste brusque, la moindre violence est immédiatement
elle est condamnable
et puis elle n'est pas discutable. Les violences psychologiques, elles, par contre, comment les prouver, comment les reconnaître, comment les démontrer?
Alors, c'est vrai que prouver, en général, il y a toujours, c'est jamais tout à fait simple. Les violences physiques, il peut y avoir des certificats médicaux. Les violences psychologiques aussi. Et puis, il peut y avoir et nous, c'est vrai qu'on encourage les femmes à consigner, à garder, à laisser des traces, à écrire des choses sur ce qu'elles vivent au quotidien. Et puis aussi à enregistrer des conversations, enregistrer des disputes. Tout ça, ça peut être versé au dossier. Et ça peut faire un faisceau d'indices. Donc, même si vous n'avez pas preuve flagrante,
Le jour où on décide de mettre des caméras pour montrer, prouver ce qui se passe chez soi ou d'enregistrer des conversations, c'est qu'on a déjà compris. Avant, non ?
C'est sûr. Après, l'emprise, elle va s'installer petit à petit.
Quand on a un mec qui ferme la porte à clé, qui prend notre téléphone, quand on n'a plus accès et qu'on peut plus communiquer...
Ça existe, ça ?
Ah bah, bien sûr. Mm. C'est ultra courant. Moi, je regarde souvent des juges qui, justement, confrontent des hommes dans ce genre de fait et qui leur lisent tout ça en disant, donc, votre femme n'avait pas accès à son téléphone. Mais c'est-à-dire, pourquoi ? Elle dit, bah non, mais... Et le mec, en fait, explique souvent qu'il trouve ça normal dans une relation d'amour, de marital.
Ça, c'est condamnable, ces preuves sont apportées.
Oui, c'est ce qu'on appelle le contrôle coercitif. Donc, en fait, c'est toutes ces manières de contrôler sa partenaire ou son partenaire. Moi, en l'occurrence, c'est plutôt les femmes qui en sont victimes. Et c'est ce qu'il y a de plus dangereux. La plupart des féminicides, il y a eu ce contrôle coercitif auparavant. Donc, en fait, c'est vraiment un enfermement de la personne, pas forcément physique dans une pièce, mais en tout cas un enfermement de la personne. On contrôle ce qu'elle fait, on contrôle ce qu'elle dit, on contrôle comment elle s'habille, on contrôle avec qui elle a le droit de sortir, à quelle heure elle peut rentrer, on contrôle ce qu'elle fait en permanence. Il y a d'ailleurs, malheureusement, grâce aux nouvelles technologies, des outils de contrôle en temps réel des femmes qui sont totalement flippantes. C'est une sorte de fascisme domestique qui fait que vous êtes tracé grâce à votre téléphone. Vous êtes tracé grâce à des AirTags et donc vous êtes complètement enfermé. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de... C'est le signal le plus dangereux qui amène le plus au féminicide. Donc, ce n'est pas forcément les coups, mais vraiment s'il y a ce contrôle coercitif.
L'intrusion, le contrôle...
Voilà, ça veut dire qu'en fait, le conjoint pense que vous êtes complètement sa chose, son objet, que vous devez lui obéir. Et donc, si un jour vous voulez partir, et c'est souvent dans ces contextes-là qu'il y a des féminicides, alors il va se mettre dans une rage folle parce que, justement, il ne veut pas perdre son objet, il préfère détruire que cette dame parte.
Quand vous dites objet, vous parlez de sa femme.
Oui. Absolument, son objet de
domination,
sur
domination.
Lequel il exerce sa violence.
Le rôle des autres, le rôle des voisins, des potes, de la famille, de la maman, du père, à quel moment on doit On a un devoir de se mêler, de sauver une personne victime de violences conjugales.
Bah, il est essentiel, ne serait-ce que déjà, on doit porter assistance à toute personne en danger, et une femme qui est victime de violences est en danger.
Mais on ne doit pas se mêler de la vie privée des gens, donc la limite, elle est où ?
La limite, elle est qu'à partir du moment où une femme subit des violences, c'est plus de la vie privée. Ça devient quelque chose où on a tous et toutes le droit de s'en mêler. Okay, maintenant, il faut faire attention à la maternité.
On veut la sauver et elle dit « mais non, mais je l'aime. Oui, je reste, mais je l'aime. »
Alors, c'est ça qui est, qu'il faut comprendre. C'est pas facile. Mais en tout cas, ce qu'il faut, donc nous, à la Fondation des Femmes, on a monté justement une formation pour apprendre aux proches comment faire, comment réagir pour avoir ces outils-là, un peu ces gestes de premier secours. Vous n'êtes pas médecin, c'est pas vous qui allez la sauver, la dame, mais vous pouvez peut-être dire les bonnes choses au bon moment. Et donc, ce qu'on apprend à ce moment-là aux personnes qui font cette formation, c'est qu'il faut déjà être très... il faut nommer les choses, d'accord ? Donc, appeler une violence, appeler un chat un chat. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut écouter la personne. Et dans une écoute active, c'est-à-dire l'écouter et la conseiller, l'encourager, lui dire « tu as bien fait de me parler ». Donc, il n'avait pas le droit, c'est une violence. Ensuite, « tu as bien fait de me parler ». Et enfin, il y a aussi ce qu'on peut faire, c'est évidemment orienter. Donc, dire « il y a des associations qui sont là,
pour aller porter
plainte, ce numéro.
Pour aller au commissariat, on fait quoi ?
Alors, il faut, on peut appeler la police, appeler les associations. Il y a des tas d'acteurs et d'actrices qui sont là. Donc, le 3919, bien sûr, qui vous donnera des rendez-vous partout en France.
L'appel est gratuit, on le rappelle. Voilà.
Mais attention, respectez le rythme de la victime, en fait. Elle va mettre un certain temps à ouvrir les yeux. Et ça peut être frustrant, mais elle a besoin de ce temps-là aussi. En tout cas, vous, surtout, n'allez jamais dans le sens de l'agresseur. Continue à bien nommer les choses. Il n'a pas le droit. Tu fais comme tu veux, tu pars quand tu veux. Mais moi, je te dis, je suis de ton côté, je suis là. Je suis là aujourd'hui, je serai là demain. Surtout, ne pas casser le lien. Et nommer les choses et dire à cette personne que vous êtes là. Et dire à cette personne que même si la séparation peut être difficile, la vie après est vraiment bien meilleure.
Sur le site internet de la Fondation, Fondation des Femmes, vous aurez toutes ces informations. Le 3919, je redonne ce numéro de téléphone. N'hésitez pas à l'employer, que vous soyez victime ou témoin d'une agression, d'une violence conjugale. Trop de femmes meurent. Le rythme est absolument affolant chaque année et ça ne va pas en s'arrangeant. Merci Anne-Cécile d'être venue
beaucoup,
à ce micro.
Merci
et puis
vous.
Je rappelle que les dons à la Fondation peuvent justement aider à ces déménagements.
Financer ces actions, absolument.
Exactement. On parle de ça, c'est l'amour, puisque c'est le point de départ. C'était de l'amour au début de cette pièce de théâtre avec Marie-Lou Berry et Josiane Balasco jusqu'à midi et demi. Mais d'abord, voici l'hommage de Mélodie Fontaine.
Alors, chaque jour que Dieu fait, on l'embrasse d'ailleurs, cette semaine en tout cas, je rends hommage à quelqu'un ou quelque chose. Aujourd'hui, ce sera à celles et ceux qui se glissent dans le corps d'autres gens contre de l'argent, qui chaque soir se mettent à nu, essayant de donner du plaisir, une émotion, des frissons. Hommage aux comédiennes et comédiens, bien sûr. J'ai l'impression d'être comme ces gens aux César et aux Oscars qui se congratulent. Tu sais, dans les autres professions, c'est plus rare quand même. Tu sais, boucher, par exemple, bon. Et le prix de la meilleure saucisse.
Oui.
Alors, il y a des pâtés qui changent une vie.
Il y a beaucoup déprimés.
Oui, c'est vrai.
Et la terrine, j'imagine la cérémonie. Tu sais, et la terrine de Bernard, mon ami, plein les mirettes. Je veux dire, vraiment plein les mirettes. Non, tu vois pas ça, t'entends pas non plus. Pour l'ensemble de ton œuvre, en tant que responsable des achats, tu as joué un rôle crucial en garantissant l'efficacité et la rentabilité des achats de biens et services nécessaires à l'activité de l'organisation. Non, il y a finalement que dans l'art oral qu'on se récompense entre nous devant tout le monde. Enfin, entre nous. Entre vous, devrais-je dire. C'est pas qu'on m'appelle pas afin de me récompenser, c'est juste qu'on m'appelle pas. Donc voilà. Pourtant, je le donne, hein, mon numéro, je lésine pas. Hein. Dès que ça se dit Cinoche, moi je fonce bille en tête. Heureusement, personne dit Cinoche depuis 1957. Bon, au cas où, je lâche quand même mon numéro, il y a des gens du milieu. 07,
75, non, trop tard.
Mais bon, puisqu'on s'autobise à tout bout de champ et de cérémonie, faut avouer que nos autres comédiens, heureusement qu'on est là quand même. Hein, parce qu'avec ce qui se prépare, va falloir rester soudés. Donc, hommage aux gens qui se mettent dans la peau d'eux. Bah tiens, hommage à Samuel Beckett, finalement. Non, pas le dramaturge. Hein. Ouh là 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 là, je suis pas devenu cultivé en une nuit. Même un radis est plus cultivé que moi. Pas Beckett, l'auteur de En attendant Godot. Moi, je suis plus En attendant le Godet.
Oh.
Non, je parlais de Samuel Beckett, le gars de Code Quantum. Tout le monde voit ou pas avec Steve Bakula, ou un mec voyager dans le temps, sautant de corps en corps, sans demander l'autorisation. Le biopic d'Harry Habitant, fit Norman Tabak. Faux. Ah non. Bref, Beckett, à chaque épisode, il possédait quelqu'un pour résoudre un truc. Et l'enjeu, c'est qu'il n'arrivait jamais à retrouver son propre corps. Ouais. En même temps, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais ce n'est pas si facile de rentrer dans son propre corps. J'ai surpris Nagui en train d'essayer dans le couloir, on aurait dit une chaussette retournée. Voilà. Code Quantum, c'est un peu la série rêvée pour un comédien. À chaque épisode, tu joues dans une nouvelle série. C'est si ingénieux et malin. Code Quantum, c'est un peu Camping Paradis, en fait. Mais sans voiturette de golf. Moi, j'aurais adoré jouer dans cette série. C'est un des trucs qui m'a donné envie de jouer. Passer son temps dans un camping avec tous les problèmes de gestion que ça implique, c'est pas si simple à organiser une soirée chipo. Ouais, non, bien sûr, Code Quantum aussi, ouais. En fait, jouer, peu importe comme son nom l'indique, c'est chouette. Jouons. Comme dirait l'autre Samuel Beckett, c'est le commencement qui est le pire, puis le milieu, puis la fin aussi. Et enfin, bon, finalement, c'est peut-être à lui que je voudrais rendre hommage aujourd'hui.
Merci, Mélodie.
Et Mélodie, elle est sur scène. Samedi, tu seras à la Chapelle Saint-Mémin. Et le 21 février, tu seras à Tonneins. C'est entre Agen et Marmande dans Lot-et-Garonne.
Et pour la première fois réunis sur scène sur les planches, Josiane Balasco, Marie Lou Berry dans cette pièce « Ça, c'est de l'amour » au Bouffe Parisien. Mise en scène par Juliane Roth avec également Riad Gabi et Lucie Baumann qui vous accompagnent sur scène. C'est les mercredis et jeudis à 20h, le vendredi et samedi à 21h. Il y a les matinées samedi et dimanche. C'est un rythme de dingue qui vous attend jusqu'à la fin avril, c'est ça ? Donc, ne rien lâcher. Tanguy Pastureau, oui. De quoi vas-tu nous parler ?
De Nature et Découverte, la chaîne de magasins, figurez-vous, est à vendre. Alors, chiche, on la rachète et on vit au milieu des battants de pluie, tous ensemble.
On en parle après les infos. Avec Leïla Kadoboudet, Elisa Delmoitier, Mélodie Fontaine, Amandine Lourdel, Tanguy Pastureau et nos invités Marie-Lou Berry et Josiane Balasco.
France Inter, la bande originale, Leïla Kadour et Nagui.
Une pièce de Jean-Robert Charrier, ça c'est l'amour au Bouffe Parisien, pièce que nous avons appréciée, applaudie, on a ri, on a été ému, on a été troublé. Comment vous la racontez, cette pièce? Si vous devez dire à un pote, je suis en ce moment au théâtre, Josiane Balasco, vous dites c'est une comédie, c'est un drame, comment non, vous la décrivez?
Non, comédie non, ça, dit, ça démarre comme une comédie.
Et pourtant on rit.
Ça tourne au drame mais on évite la tragédie.
Et ça commence comme un boulevard, oui.
Oui, on évite la tragédie quand même, mais il y a du drame. Il y a aussi de la comédie. Voilà.
Et si on vous demande de quoi ça parle, Marie-Lou, vous dites ça parle d'une famille comme une autre ou ça parle d'un couple qui a des problèmes?
Ça parle, oui, ça parle de l'emprise. De l'emprise et des violences conjugales, c'est le fond de la pièce.
Il y a aussi l'emprise entre la mère et la fille aussi. On peut se demander s'il n'y a pas un rapport de domination ou un rapport de force qui s'installe entre une mère et sa fille. Et ses filles, parce qu'elle est tendue avec les deux un peu.
Oui, mais finalement, c'est au début, oui, je suis d'accord, mais finalement, c'est presque touchant. Enfin, c'est touchant d'ailleurs, et je trouve que ça part de l'amour. Enfin, voilà.
On comprend, oui.
Et finalement, le titre, ça, c'est l'amour. Bah, je pense que c'est aussi ça, l'amour, d'avoir une mère qui essaye. Et parce que même si, comme tu disais tout à l'heure, ça c'est l'amour, point d'interrogation, mais finalement
non,
c'est un double...
C'est l'amour, ça.
C'est l'amour, ça.
Parce qu'on peut être choqué aussi de dire, vous appelez ça de l'amour, de frapper une femme et de dire, mais je te frappe parce que je t'aime.
Parce que souvent, les hommes frappent leur femme au nom de l'amour. Mais je trouve que finalement, la pièce parle aussi de l'amour mère-fille qui est très fort et qui peut aussi déborder. Mais moi, je préfère qu'il déborde et qu'il en ait trop et qu'il soit parfois too much que pas la du tout, quoi.
Sur scène, donc, Josiane Balasco, Marie Lou Berry avec Riad Gami, Lucie Baumann. Leïla, tu partages ce côté, ce prisme, donc, de la, ça commence comme une comédie, ça devient dramatique sans finir en tragédie.
Et c'est saisissant, le silence dans la salle qui s'installe au moment où ça bascule. Carrément. Il est très très fort, il est très lourd de sens aussi sur la sidération qu'on peut éprouver, sur la normalité tout d'un coup d'une situation. Bon, une mère, une fille qui chamaille un peu, il y a des précédents, on sent bien qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Tout d'un coup, là, il y a l'immersion d'un réel encore plus grand, en fait, qui arrive et qui est assez fou. Et c'est vrai que c'est la force de la pièce.
Et le rire qui revient derrière est un peu libératoire. Ouais. C'est-à-dire qu'on a...
Oui, je crois qu'on a besoin.
Oui, il y a des rires qui sont assez fous.
Oui, bah, dans des moments extrêmement dramatiques. Je dis quelque chose et paf, les gens se marrent. Et juste après, ils arrêtent.
Il y a des rires qui vous ont surpris en disant on pensait pas qu'il rirait à ce moment-là et pourtant, oui.
Ah ouais, moi, il y a un rire quand on vient viens de passer une scène avec Riyad assez violente et où ma mère revient en disant pardon, j'ai oublié mes clés et que Riyad se barre en disant putain, qu'est-ce qu'elle me veut encore la vieille, et il se barre comme ça et elle se retourne, elle le regarde partir et elle dit là non plus il s'est pas rendu compte.
C'est très drôle.
Et les éclats de rire. Et moi je m'y attendais pas du tout, mais en même temps c'est un rire,
c'est un soulagement.
Qui est libérateur.
Au bouffe parisien, donc ça c'est l'amour et dépêchez-vous d'y aller, c'est jusqu'à la fin avril. Voici Tanguy Pastureau.
Je suis là pour prendre une revanche sur la vie parce que ma chronique d'hier a moyennement séduit. C'est de ma faute, je parlais de corruption de mineurs et de nazisme un lundi matin. Bon, super. Donc tout ça c'est fini, désormais je vais être feel good. Hein. Ce sera des blagues sur les chats. Vous savez ce que c'est un chat juif du vendredi? Un Shabbat. Voilà, et là ça marche. Donc terminé le pastureau qui divise, maintenant je vais être aussi lisse qu'un macroniste ou qu'un pubiste d'influenceuse maillot de bain. Premier indice qui me fait dire que je n'ai pas séduit hier, pendant toute la chronique il y avait une personne qui tapait ses textos extérieur à l'équipe, je vais pas lui faire de pub parce qu'on le voit partout, Pierre Ninet. Hein, mais c'est pas le seul, il y a plein d'invités qui font ça. Et moi je suis le Kim Jong-un de l'attention, je supporte pas qu'on m'écoute pas, sinon j'aurais fait du mime. Donc ma demande, qu'on n'ait plus que des invités seniors qui sont pas sur leur téléphone H24, Pierre Arditi ou Jacques Weber quand ils viennent. Eh ben ils sont suspendus à nos lèvres. Ok, parce qu'ils essayent d'y lire ce qu'on est en train de raconter. Mais nous on prend ça pour de la politesse. Indice numéro 2 qui me fait dire que je n'ai pas séduit. Hier on avait des terminales en studio et ils me regardaient comme s'ils étaient non pas en classe de terminale mais en phase terminale d'une maladie dégénérative. Pire, leur prof ensuite est venu me voir, il m'a dit véridique, est-ce que vous avez pensé à faire un recueil de vos chroniques, pas forcément celle d'aujourd'hui mais en général. J'ai eu envie de crever. Il m'a vraiment dit ça. Mais je suis resté digne. C'est la dernière fois. Le prochain qui me sort un truc comme ça, je le décalque. Indice numéro 3 qui me fait dire que je n'ai pas séduit. Bon, il n'y en a pas. Mais 2 suffisent à me mettre mal parce que je suis moins solide qu'une bâtisse du 16e siècle sur laquelle aurait uriné un sportif dopé. En plus, hier, c'était mon anniversaire. Mais 9 saisons qu'on est ensemble, 9 saisons que vous le zappez. Comme Starnet le 26 janvier, il y a moi et Michel Sardou. Vous n'allez pas me dire que sur France Inter, la radio du Wokistan, la nif de Sardou éclipse le mien, fuck. Mais je demandais pas grand chose, juste un anif typique d'un mec de mon âge, quoi. Un gâteau blindé de crème, là j'aurais dit non, je fais attention à ma ligne avant d'en prendre 16 parts. Je voulais aussi du champagne, plus une troupe de danseuses nues, plus un tapir sur lequel une femme à barbe aurait joué de la flûte, plus des combattants de MMA nus aussi, enfin un anniversaire quoi. Et là rien, mais je peux crever demain, je sais qu'au mieux il y aura une rediff d'une chronique. Pendant ce temps-là, les invités feront leur course sur aura.fr et au bout de 7 secondes de diff, Nagui dira allez, comme dirait Balkany, the show must go on. Hein, bonjour, Riyad Satouf, et l'émission commencera. On est peu de choses. Bref, sujet feel good, ce midi, la nécrophagie, c'est le fait de se nourrir de cadavres. Mais non, c'est une blague. Ça, c'est l'ancien pastu, celui qui flingue sa carrière. Le nouveau, celui qui veut remplir des zéniths, part sur du doux. Je vais vous parler de Nature et Découverte, les magasins qui sentent l'encens. Hein, on dirait des sex shops pour ébénistes parce qu'il y a 700 références d'objets massants en bois. On a l'impression que Gepetto en manque, s'est lâché dans son atelier de fabrication. Chez Nature et Découverte, il n'y a que des produits qui nous font nous sentir bien. Les réveils simulateurs d'aube, vous connaissez, ça s'allume lentement. Très, très lentement. Hein, d'abord, il y a des chants d'oiseaux, puis un bruit de rivière. Ensuite, de la lumière se fait. Le lever dure 3h30, hein, plus longtemps que celui de Louis XVI à l'époque. Mais vous êtes bien. Quand vers 14h30, vous mangez votre petit-déj, vous êtes bien. Et puis, les diffuseurs de parfums. C'est idéal quand vous avez un conjoint qui pue. Ça permet de continuer à vivre ensemble. Faudrait ça dans les transports en commun. Oh, et puis les sièges de massage, c'est fabuleux. On s'assied dessus et ils nous massent. Allez faire ça chez le kiné. Une fois sur deux, il se met à gueuler. Même si vous bougez un peu le bassin, une fois sur ses cuisses pour lui donner du plaisir, ils râlent. Ils vendent même des ponchos chauffants. Alors oui, t'as l'air con, mais tu as chaud. Et des lampes de luminothérapie, ça vous connaissez,
oui.
Hein, t'as de lumière, la lumière brute plein la tête, quoi. Si t'étais au commissariat et qu'on voulait te faire cracher le nom de tous tes complices, ce serait pareil. Mais là, ça vient de chez Nature et Découverte, donc te dis, c'est du bien-être. Hein, même s'il y avait un coffret fakir avec du verre pilé à étaler sur le lit, on aurait l'impression d'être bien. On saignerait du dos, mais en feng shui. C'est-à-dire que les filets de sang formeraient un logo Peace and Love. Et les livres chez Nature et Découverte, ah, ça, c'est autre chose que les prix Goncourt, Renaudot, toutes ces merdes qui nous dépriment. Chez Nature et Découverte, les livres s'appellent Mon meilleur moi. J'en ai lu. En gros, il faut abandonner tout ce que vous étiez et repartir à zéro. Et la moitié du bouquin, ce sont des pages blanches. On a l'impression que c'est la biographie de Ramayad. Tu vois que ça s'est interrompu net. Mais en fait, c'est pour noter vos progrès. Vous écrivez aujourd'hui, j'ai dit bonjour à une personne, et petit à petit, vous renoncez à l'idée du meurtre de masse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le groupe Fnac Darty, à qui appartient l'enseigne L'Avant, 84 magasins en France, avec des vendeurs qui sentent sous les aisselles, parce que dans Nature et Découverte, il y a nature. Et ils s'en foutent parce qu'il y a un diffuseur géant d'huile essentielle, hibiscus, verveine, quinoa, hein, dans le magasin. Alors ça sent bon. La boîte a baissé en vente depuis le Covid, j'ai lu ça dans la presse, mais reste, attention, très attractive, disent les boss. C'est normal, moi quand j'y vais, j'ai l'impression d'être une belle personne, qui fait attention à soi, à la planète, à son enfant, à qui on propose un petit ranch en bois, et qui répond, mais non connard, je vais à la Switch 2. Et là on se dit, c'est pas étonnant qui veulent plus de ces êtres-là dans leur train à la SNCF. Nagui, j'ai une proposition. Allez. On rachète la société, je mets 50 euros, vous le reste, et on délocalise l'émission dans le Nature et Découverte du centre commercial Beaugrenelle, juste à côté de la radio. On sera dans des hamacs, les invités pourront pioncer pendant ma chronique, comme d'habitude, tranquille au bilou. La qui, avant même d'être parti à la retraite. Ah, le kiff, enfin le kiff.
Deal.
Et Tanguy Pastureau, tu es sur scène à Lille, on te retrouve là-bas le 11 février et à Caen le 20 février.
Mais là où tu as raison, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Tu rentres dans cette boutique, tu te sens déjà bien, c'est quand même fort. Et Josiane a beaucoup aimé le Saxo Shop pour ébéniste. les bouffes parisiens accueillent ça, c'est l'amour. Josiane Balasco, Marie Loubéry, Riyad Ghami et Lucie Beaumann sur scène. D'autres événements culturels, Leïla.
On va s'intéresser à une phrase d'un acteur, Bruno Kremer, qui avait dit... Ceci est un trou de mémoire. Cette phrase, d'après vous, qui ne concerne pas le théâtre, concerne quoi ? C'est une phrase qui est associée à Bruno Kremer, qu'on retrouve dans un livre qui vient de paraître.
À un moment de l'histoire ?
Non, ceci est un trou de mémoire.
Un moment de son parcours qu'il a voulu oublier ?
Non, c'est un trait d'humour. Ah. Eddie Barclay, lui, c'est que la fête continue.
À sa mort ?
C'est son épitaphe, bravo, c'est l'épitaphe de Bruno Kremer, ceci est un trou de mémoire. Wow. Eddie Barclay, que la fête continue, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il y a un livre, un guide, Star pour toujours, de Thierry Luters, qui est sorti aux éditions Chronica, qui recense en fait les lieux des tombes des stars, et qui documente soit donc la ville, l'état, l'épitaphe éventuellement, et d'autres informations autour de ça. Francis Blanche, par exemple, avait fait inscrire...
J'ai hâte de savoir. Oui.
Laissez-moi dormir, j'étais fait pour ça.
Voilà. C'est aussi un qui est très juste, c'est passez quand vous voulez, je ne bouge pas.
Voilà.
Il n'y a pas toujours des phrases sur les
toujours.
Des grands acteurs.
Jim Morrison a mis, oui, mais en même temps, je m'en suis mis beaucoup dans le cornet.
Non, c'est pas nécessairement indispensable. Enfin, c'est pas systématique.
Mais il faut
systématique.
Y penser parce que c'est un bon moyen de partir.
Exactement. Enfin, ouais, on reste dans l'histoire, Bruno Kremer. Enfin, on va le retenir aussi pour ça.
Une vanne pour la vie. Il ne faut pas se tromper sur la vanne.
Pour l'éternité.
Il faut être bon. En tout cas, c'est recensé dans ce livre-là, avec plein de précisions, notamment que Dalida et Erika Zara disposent d'une boîte aux lettres. On peut donc leur adresser du courrier, c'est assez marrant. Je ne sais pas qui relève ensuite cette boîte aux lettres. Il y a des boîtes aux lettres, pour ces personnalités. Et puis après, il y a toutes les personnalités où il n'y a pas de tombe, puisqu'elles ont été incinérées et que leurs cendres ont été répandues. Alors Jean Gabin, c'est au large de Brest. Romain Gary, c'est au large de Menton.
Je crois qu'on n'avait pas le droit.
Oui, mais on peut.
Je crois qu'il y avait des urnes et qu'il fallait.
Normalement, tu dois être dans une urne au columbarium. Oui, mais bon, mais tu peux demander aussi.
Il y a des endroits où tu as le droit.
Mais je crois que Gabin, c'était la Navy, enfin la marine.
La marine,
qui a répandu ses cendres.
Et puis maintenant, on peut être dans des jardins du souvenir. Il y a des endroits où on a le droit d'aller déverser les cendres et c'est complètement légal.
Moi, j'ai les cendres de mes chiens chez moi, dans des petites urnes.
C'est vrai.
Oui. Donc, mais là, on a le droit.
Oui.
Ok.
Non, plus maintenant.
Pas sa grand-mère.
Pas sa grand-mère.
Non.
C'est important de préciser.
C'est vrai. Et est-ce que vous avez déjà pensé à votre épitaphe ? Est-ce que vous avez déjà pensé à cet après-là ?
À la vanne.
Ouais.
La vanne pour l'éternité.
La vanne extrême, Josiane.
Ben non, je sais pas. Non, la vanne extrême.
Je vous l'avais dit.
Je l'avais bien dit. J'allais
que j'étais
pas
malade,
bien.
C'est ça. Mais c'est ça.
Plus bien dit que j'étais malade.
Ce n'était pas qu'une mauvaise toux.
T'as dit quoi ?
Ce n'était pas qu'une mauvaise toux.
En tout cas, voilà.
Mais ça ressemble à du Pierre Dax à côté. Je vous avais dit que j'étais pas bien.
Ouais, je pense qu'on peut continuer à les recenser. Donc, Star pour toujours, vous aurez pas mal d'informations dans ce bouquin de Thierry Luters. Autre question, on va parler d'André Dussolier et de Catherine Fro. Tous les deux viennent faire leur entrée dans une académie. Laquelle ?
Ah oui, c'est J'y suis aussi. L'Académie Alphonse Allais.
Bravo, absolument. Ouais.
Tu es dans une académie?
Bah oui, il décore beaucoup de gens quand même.
Quelques aphorismes. Ne nous prenons pas au sérieux, il n'y aura aucun survivant. Il faut mettre les villes à la campagne. Ou encore, j'ai décidé de vivre éternellement. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Voilà, quelques aphorismes d'Alphonse Allais.
Qui est d'ailleurs le seul écrivain sans livre. Il n'a jamais écrit de livre, que des articles, des choses comme ça dans les journaux.
Voilà, aphorismes.
Il a des pensées?
Il n'a pas de recueil. Ouais, okay. Il est apothicaire de formation, journaliste et en effet humoriste.
Et il y a un musée bien absurde à Honfleur.
Exactement, il excellait dans l'absurde, dans ces petits mots comme ça, ce mot qui fait mouche. Et donc, ils viennent faire tous les deux leur entrée dans cette académie. Alors attends, mais ça m'intéresse du coup, Tanguy.
Ah, c'est très particulier.
Alors raconte-nous.
En fait, c'est Tanguy qui gère Wikipédia.
Non, ce sont globalement des gens ivres, mais qui aiment beaucoup les mots. Et donc, on les fait rire avec 2-3 vannes. On a une espèce de grosse médaille avec une comète, parce que ça s'appelle la comète de Halley.
Oui.
Donc, faut vraiment aimer les calembours.
Ça va au bout de la vanne.
Ah, c'est soirée calembour, hein, total. Ah. Si vous n'aimez pas les calembours, n'y allez pas.
Est-ce que vous avez été intronisée, Josiane, dans un ordre?
J'ai pas eu l'honneur de ça, non. J'aime les calembours, pourtant.
Hein. Ah, ben voilà.
Alors, il y a peut-être une proposition à faire.
Je suis ravie de voir que mes camarades le sont.
Ouais.
Et alors, ça donne droit à quoi?
Pas grand-chose à être invité une fois par an à la soirée de remise de la comète de Halley.
Et vous,
de remise, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau nommé?
Ah oui, il y a deux fois par an. Une fois en fleurs, une fois à Paris.
Ouais. Ok.
Et vous, Marie-Lou, vous faites partie d'un ordre, vous avez été intronisée dans l'ordre des, des croqueurs de chocolat, il y a tellement de choses.
Des maîtres cuisiniers de France.
D'accord. Ah, et ça consistait en quoi?
À manger.
C'est complètement dans nos cordes.
Quelle est la vanne dans la pièce que vous avez appréciée le plus en lisant ça, c'est l'amour? Est-ce qu'il y a une vanne où vous avez dit ah?
Et moi c'est Google, c'est quand tu parles de Google.
Ah oui, c'est Google, mais quand je parle de Google,
elle est
difficile à dire. Il y en a une qui est très très drôle. Elle fait un commentaire. Elle a été sur Google, elle y va rarement, et elle a été chercher les horaires de Yves Rocher. Elle n'avait plus de gel de douche. Et elle lit donc les commentaires des gens. Elle dit, les gens font des commentaires. Il y a une dame qui écrit très bien, bon accueil, ceci, cela, pourquoi pas. Et juste en dessous, un monsieur a répondu, j'étais au collège avec Yves Rocher, c'est un bel... J'ai quel rapport avec mon gel douche?
Mais en plus, c'est tellement vrai que ce genre de commentaires peuvent exister sur Google. Donc, tellement vrai. Ça, c'est l'amour, vous l'avez compris, c'est à la fois drôle, émouvant, ça prête à réfléchir, à discuter, sûrement. On imagine, en sortant du théâtre, des personnes échanger. Peut-être, d'ailleurs, des personnes faire le premier pas pour dire faut que je me libère de l'emprise dont je suis victime, ce qui serait aussi l'une des, je sais pas si c'est une mission, mais en tout cas,
les gens se lâchent toujours ça m'a rappelé le rapport de ma sœur, ça m'a rappelé mon histoire personnelle, ça m'a rappelé, il y a toujours un moment donné.
Une histoire familiale. Oui. Ça pose aussi la question sur la transmission, vous en parliez tout à l'heure, Josiane, la transmission des blessures familiales ou des plaies. Vous dites si des grands-parents étaient victimes de quelque chose dans l'ADN,
les petits-enfants peuvent le ressentir, oui. Et c'est vrai que dans l'histoire, j'ai vécu des choses similaires à celles de ma fille. On n'en a jamais parlé. Ça va être le moment où on va en parler. Mmh. Il y a aussi cette pièce. Donc,
absolument.
Mais les choses négatives comme positives, d'ailleurs, aussi, je trouve, se transmettent. Mmh.
Est-ce que Jean vous a raconté comment l'idée de cette pièce lui est venue?
C'est son histoire personnelle, donc c'est
encore plus touchant. Oui.
Encore plus touchant, et puis surtout, c'est pour ça que c'est aussi, je trouve, vrai et aussi bien écrit, parce que c'est du vécu finalement. C'est lui, c'est son point de vue de petit garçon presque.
Eh ben, c'est réussi en tout cas, et c'est au Théâtre Bouffe Parisien jusqu'au 26 avril. Des représentations du mercredi au dimanche, tous les jours, mercredi et jeudi à 20h, le vendredi à 21h, samedi et dimanche. Il y a des matinées en plus à 16 et 15h. Dans les projets, Josiane, la pièce s'arrête le 26 avril, et le 22, vous serez à l'affiche de L'Arnaqueuse.
Oui, c'est un film que Jean-Pascal Zazi a écrit, Jean-Pascal Zazi, avec Fadili Camara. Et je fais une vieille dame qui fait de l'escroquerie à la... Comment dire comment s'appelle
Je sais pas.
Bah oui, non, tu vois, ça y est, elle a perdu parce qu'elle a, c'est une femme un peu âgée.
Ou viagée.
Ou viagée, voilà. Voilà, putain. Ah, excusez-moi.
Ou viagée, elle fait la tromperie. C'est-à-dire que des gens viennent voir une femme en train de mourir, pratiquement, qui vit dans un sublime appartement. Et elle est prête à le mettre en viagée. Donc les gens y vont. Puisqu'elle est
en disant ça va pas durer longtemps. Le principe du viager étant qu'on paye tous les mois jusqu'à la mort de la personne.
Plusieurs comme ça. Oui, oui, ouais. Ah,
et le 12 août, vous serez à l'affiche de Tomber du ciel, qui n'est pas que une chanson de l'excellent Jacques Higelin. Là, c'est le titre du film de Mohamed Hamidi. On imagine donc une comédie. Fred Testo également.
Et puis un jeune humoriste,
Ilyes Jadel.
Ilyes Jadel. Et donc c'est inspiré d'un de ses sketchs, parce que ses parents en avaient marre qu'il foute rien à l'école.
Il a raté deux fois le bac, hein, c'est
voilà,
ça.
Voilà, et ils lui ont dit on va te mettre dans une pension religieuse pour apprendre le bac. Alors il est musulman et naturellement ils lui choisissent une pension catholique. Et donc, à partir de ses souvenirs, il y a un scénario qui a été écrit et où il se retrouve dans cette pension et où je suis une des sœurs, sœur Catherine, qui est un petit peu rêche, un petit peu... Voilà.
Vous avez prêté votre voix à un film d'animation. J'ai pas la date de sortie. Des chiens ne font pas des chats. D'Alain Gagnol. Quel animal faites-vous?
Ah ben moi, je fais une grand-mère qui comprend le langage des animaux, qui arrive à entendre le langage des animaux.
D'accord, ça fait penser à la...
Fred Testo.
À Fred Testo et Bête de Flic, exactement. Et puis, il y a une réédition de... On parlait tout à l'heure du Splendide. Réédition du Splendide par le Splendide, au Cherche Midi. Ce livre est une réussite.
Qui a permis de reverser de l'argent à la FMR.
Bah, il y a eu près de 300 000 euros, je crois, ou 200 000.
Reversé à la FRM, la Fondation de la Recherche Médicale.
Donc, et ça continue, et donc ils ont refait une nouvelle version avec une amélioration, avec d'autres pages, avec d'autres photos, voilà.
C'est super, un superbe livre, une très belle idée de cadeau. Vous, Marie-Lou Berry, vous avez donc ce projet de réaliser un jour un nouveau Bronzé, on n'en est pas là, mais est-ce que vous êtes dans l'écriture justement de scénar, l'envie de réaliser, de monter vous-même votre film, votre pièce?
Oui, en avril, je vais partir en tournage avec Frédéric Kiering sur un film qu'il a lui écrit, et j'ai fini d'écrire mon prochain film.
Vous avez déjà fait
Doux Jésus, avec qui j'ai fait Doux Jésus, ouais. Et j'ai fini d'écrire mon prochain film aussi, que je vais faire l'année prochaine. Je sais pas si...
Sur quel ton ?
Sur le thème de... C'est une comédie sur la mort, et ce sera la suite de Joséphine.
Je fais la mère. Je suis obligé.
Alors, on dit que les traumatismes passent par l'ADN. Est-ce que les vannes et l'humour se transmettent aussi dans l'ADN, Josiane ?
Mais je sais pas. Apparemment, avec ma fille, ça n'a pas trop mal marché, quoi.
Et avec vos parents ?
Avec mes parents, grand-mère...
Ils
n'avaient pas le temps de bosser.
Tu m'as toujours dit que ta grand-mère était drôle.
Ma grand-mère était drôle. Ma grand-mère était vanneuse. Voilà, mais je n'ai pas eu de la temps à connaître si longtemps que ça. Mais en fin de compte, on ne sait pas d'où ça vient. Ça vient aussi du fait que j'ai entendu tellement de conneries dans un bistrot que ça vous imprègne.
Et vous, Marie-Lou, vous avez le sentiment d'hériter, entre guillemets, du ton de Josiane?
Oui, forcément. Enfin, puis on se ressemble quand même beaucoup. Mais moi, je trouve que je reproduis énormément le schéma familial. Je suis quand même maquée avec un sculpteur.
Ton père était sculpteur.
Oui,
j'habite
j'ai
à peu près à 500 mètres de là où j'habitais quand j'étais petite. J'ai réalisé il n'y a pas longtemps que l'appartement ressemblait énormément à l'appartement dans lequel je vivais quand j'étais petite. Je suis comédienne. Non, voilà, je trouve que le schéma... Et à chaque fois, on se dit... Quand on fait un truc, on fait « Ah putain, je fais comme ma mère ».
Il y a pire comme route à suivre aussi, donc ça va.
Ah bah oui, carrément. Non, voilà. Je suis très contente.
Très bien. Au théâtre, donc, Bouffe Parisien, je rappelle... Ça, c'est l'amour. Et encore bravo à Jean-Robert Charrier pour avoir écrit cette pièce. Vous avoir, j'imagine, choisi. Ou en tout cas, c'est Julianne Roth qui l'a fait. Je ne sais pas dans quel sens. Alors,
non, c'est Jean, en fait, on cherchait une pièce pour... on avait envie de jouer ensemble avec ma mère. Et on a demandé à Jean de nous trouver une pièce et qu'on n'a pas trouvée.
On a cherché ouais. Quelques mois.
Et puis un jour, il était...
Et il l'avait dans les tiroirs ou il s'est mis à l'écrire, justement?
Il était en croisière au Groenland ou je ne sais plus où. Et en regardant les glaçons passer... Il a entendu une chanson et il s'est dit « je vais écrire là-dessus ».
On a reçu sur email, sans prévenir, sans rien, voici une pièce et c'était formidable. Voilà.
C'est génial, ouais. C'est sur mesure. On comprend mieux comment ça se passe. Et salut encore Riad Gami qui joue à vos côtés, ainsi que Lucie Baumann. Des excuses à présenter, Lisa Delmoitier.
Oui, Lisa. Tout à fait, Nagui. déjà, désolé pour le Père Noël qui a appris ce matin qu'en plus d'être une ordure, il a failli se tirer une balle dans le cul. Écoutez, c'est vrai que ça peut être dangereux. Nos collègues Oldelaf et Daniel ont d'ailleurs essayé hier soir. Résultat, ils sont absents ce matin, alités chez eux. sur le ventre. Désolée pour Marie-Lou Berry, dont le cordon de téléphone, la cigarette électronique, la carrière et l'avenir ont été insultés par Amandine Ourdel. Faut pas le prendre personnellement, elle était ivre. Emoji bouteille de calva, emoji tequila, emoji pourquoi j'ai fait ça. Enfin, désolée pour Julianne Balasco et Marie-Lou Berry, qui étaient bêtement venues pour faire la promotion de leurs pièces et se sont retrouvées à devoir revivre les souvenirs traumatiques de l'école et des apprentissages de l'orthographe. Comment ça s'écrit, orthographe ?
Merci. Merci Josiane, merci Marie-Lou, belle journée.
Merci.
Et rendez-vous ce soir au Théâtre des Bouffes Parisiens. Demain, théâtre à nouveau avec Julien Boisselier et Arnaud Ducré. Tout de suite, les carnets de campagne. Dorothée Barba, bonjour.
Bonjour tout le monde. Connaissez-vous le lien entre les Bee Gees et les arrêts cardiaques ?
Oui, il faut suivre le tempo de Sting Alive.
Il est trop fort, voilà, pour faire un massage cardiaque. Ouais. Et je vous parle aujourd'hui d'une application qui sauve des vies et qui s'appelle Staying Alive.
Ah, tout de suite.
Salut, à demain.